Voici maintenant Clémentine Portier-Kaltenbach.
Sous vos applaudissements.
Ah, oh, si seulement.
Très bien, merci Stéphane.
Si seulement j'avais le secret de la guérison des écrouelles, bah, peut-être que je serais riche aujourd'hui.
Enfin, vous seriez reine surtout.
Alors oui, parce que pendant 800 ans quand même, les rois de France ont été réputés investis du don de guérir les écrouelles.
Que sont les écrouelles?
Alors, je vais vous expliquer
vous
ça.
Vous nous dites tout ça.
Je vais vous expliquer ça naturellement. Hein. En tout cas, c'est cette idée que les rois pouvaient avoir un pouvoir de guérisseur, elle a été empruntée aux Germains. Parce que dans une tradition très ancienne, on pensait que les hommes puissants avaient aussi des pouvoirs miraculeux. Bon, et c'est arrivé jusqu'à chez nous. Ça apparaît donc sous les Capétiens au début du XIe siècle. Et le premier à avoir eu ce pouvoir-là, c'était le fils d'Hugues Capet. Vous voyez, tout le monde voit qui était Hugues Capet.
Ah
bah donc, c'est le premier roi guérisseur, c'est Robert
987.
Le Pieux. Exactement, et donc son fils. Et c'est lui qui fait de cette pratique un don héréditaire. Et nous savons tout cela grâce à qui? Grâce à un gars dont j'aime bien le nom, il s'appelait Ego de Fleury, mais on le dit aussi Elgadius. Elgadius, c'était donc le chapelain de Robert le Pieux. Souvenez-vous de ça, ça peut faire bien dans un dîner. Oui, que
j'essaierai
je disais.
De le placer, oui, mais...
Elgadius, chapelain de Robert le Pieux. Ah ouais, la classe. Bon alors, donc voilà ce que nous disait Elgadius. Oui, moi je m'en souviendrai parce que ça me fait penser à Gadin, la Gadou, tout ça. Elgadius, chapelain de Robert le Pieux. Alors, Robert le Pieux, ayant, oui, la grand-messe, largesse, jeta au gueux des pièces d'argent. Puis il redonna la vue à un aveugle, après quoi il guérit lépreux et scrofuleux, sans dégoût ni crainte de la contagion. Voilà ce que nous dit Elgadius. Et donc c'est Robert le Pieux qui fonde une véritable dynastie de rois médecins. Après lui, écrit Marc Bloch, les descendants revendiquent à titre d'héritage le privilège paternel. Ils touchent et marquent du signe de la croix tous les pauvres gens victimes de maladies. Et ce pouvoir provient non pas des mérites du roi tout seul, mais de sa fonction royale. Il guérit parce qu'il a reçu l'onction, il a été sacré, il est loin du Seigneur. C'est ce qui a déclenché ce don en lui. Et le sacre, évidemment, est étroitement lié à la guérison. Alors cette guérison royale va devenir une coutume avec des gestes et des mots qui ne varieront guère jusqu'à l'écroulement de la monarchie. Stéphane nous l'a déjà dit tout à l'heure, hein, le roi te touche, Dieu te guérit. Alors comment ça se passait concrètement, en fait, il y avait toujours un médecin, le médecin du roi, qui se plaçait derrière les malades. Il leur tenait la tête avec les mains. Et puis, il y avait un garde qui obligeait le malade à garder les mains jointes, à la fois en prière, en somme, mais aussi pour éviter qu'il sorte un couteau, qu'il n'estourbisse le rouet. Vous comprenez? Bon, alors, le roi touchait le visage des malades. De la main droite, hein, je vais vous le montrer, je joins le geste à la parole. Avez-vous des scrofules de...
Non, pas que je sache, mais il faudrait que je fasse un petit check-up.
On ne sait jamais. Hein. Bon. Alors, donc, il signe de croix du front jusqu'au menton et ensuite, évidemment, d'une oreille à l'autre, si l'on veut, en répétant cette formule qui va guère changer avec le temps. Alors, au départ, les rois sont des médecins généralistes, ils peuvent absolument tout soigner. Ouais. Et il y a tellement de malades qui sont obligés de se spécialiser. Et finalement, au bout d'un moment, on dit « Non, bah, écoutez, le roi, là, il n'a pas que ça à faire, il va guérir uniquement les écrouelles, sinon il y avait trop de monde. » Alors, les écrouelles, maladies répugnantes et très fréquentes au Moyen-Âge, qui se manifestent sous forme de plaies absolument hideuses sur la face et surtout dans le cou, dont les suppurations répandaient une odeur fétide. On appelle ça la scrofule. C'est une inflammation des ganglions.
C'est complètement disparu, ça.
C'est d'origine tuberculeuse. Non, ça existe vaguement encore. Enfant, c'est de la soigner. Pourquoi scrofule? Parce que scrofule, ça vient d'un mot latin, scrofa, en latin la truie. Hein, c'était le symbole de la saleté. Évidemment, on y donne un nom, on donne un nom féminin, parce que
ça,
la truie, la saleté, ça aurait pu être le cochon, mais non, c'est la truie strofa. Et au Moyen-Âge, la population en est infectée, mais parfois, au miracle, les malades touchés par le roi guérissent miraculeusement. Il faut donc organiser, ritualiser ces moments de guérison par le roi.
Mais ça marchait, enfin, je comprends pas. Il y avait bien des gens qui suivaient ça, ils voyaient bien que ça marchait pas.
Mais
ou alors ça marchait une fois sur mille.
Si, ça marchait d'abord.
Mais comment ça,
d'abord,
marchait
dès que le roi était... si ça marchait, je vais vous expliquer. D'abord, dès que le roi était sacré, il devait aller à Saint-Lô, parce que c'est là que se trouvait la tombe de Saint-Marcoul, le patron des écrouelles. Alors, il devait prendre la statue entre ses mains et pouf, alors, hop, après, ça y est, il avait le pouvoir de guérir les écrouelles. Alors, au début, la cérémonie avait lieu que les vendredis saints. parce que c'est le jour d'agonie du Christ, donc c'est vraiment un jour propice au soulagement des souffrances humaines. Mais il y avait tellement de monde qu'on vient à organiser ça à Noël, à Pâques, à la Toussaint, à la Chandeleur. Il y a tellement de scrofuleux que votre grand copain Louis X, le hutin que vous aimez tant, Mathieu, lui, il guérissait les écrouelles une fois par semaine. On venait de toute la France, on venait de l'étranger pour être touché par le roi. Et puis alors, on donnait toujours quelques pièces à ceux qui venaient se faire soigner pour leur payer le voyage, mais il y avait aussi des riches. Et donc, je le disais, les médecins des rois étaient toujours présents parce qu'ils devaient faire un tri. Il ne s'agissait pas que le roi aille faire le signe de croix sur un lépreux pour choper la lèpre.
Mais après, il faisait ça à main nue ou il mettait les gants?
Bah oui, bien sûr. Alors moi, il faisait ça à main nue, hein, à ma connaissance. Oui. Hein. Alors, François Ier, jour de l'Assomption 1527, touche plus de 1500 malades. Louis XIII, alors qu'il a 9 ans, petit garçon, hein, en 1610 pour la fête de Pâques, touche 3125 de ses sujets à qui il administre comme ça un signe de croix. C'est évidemment une cérémonie absolument épuisante et puis il a beaucoup de mal à surmonter sa fatigue et son dégoût. Est-ce qu'on imagine un président de la République serrer 3125 mains dans la journée? C'est aberrant.
En plus des mains dégoûtantes.
En plus des mains dégoûtantes. Alors Louis XIV, alors même qu'il est atteint de la gangrène qui l'emportera 3 mois plus tard, il touche 1700 scrofuleux pour la Pentecôte dans une chaleur atroce. Louis XV impose les mains sur 2000 malades après son sacre. Et Louis XVI, 2400 malades. Mais là, c'est déjà l'influence du rationalisme et des Lumières. Donc on commence à être un peu dubitatif. Donc la formule change. Et la formule devient « le roi te touche, que Dieu te guérisse ». C'est-à-dire qu'on laisse quand même à Dieu le bon. Alors évidemment, vous l'imaginez bien, la Révolution a supprimé cette pratique. Louis XVIII se dit « ouh là là, je reviens sur le trône, je vais pas commencer à faire ça ». Mais Charles X, son frère, a guéri les écrouelles après son sac. Alors, il y a évidemment nettement moins de monde. Il y a une centaine de patients, dont 5 seulement éprouveront un soulagement dans les 3 mois qui suivent. Mais c'est 1825, c'était il y a 200 ans. C'est, pas...
oui,
c'est hier,
récent.
C'est hier. Hein.
Et on sait si ça a marché.
Alors, oui, ça marche. Parce que alors, de nos jours, nous savons que la scrofule, qui est devenue dans nos manuels de médecine l'adénopathie cervicale tuberculeuse chronique, est une maladie dont les fistules et les suppurations peuvent disparaître spontanément.
Ah, voilà.
Voilà, quitte à récidiver indéfiniment tout au long de l'existence. Donc il y avait 2 à 3% de patients qui effectivement guérissaient et qui devaient certainement cette guérison à l'émotion et à la foi et à l'émotion d'avoir été touché par le roi. Alors bon, depuis 1870, on n'a plus droit à guérisseur, mais on a la République et les antibiotiques. C'est pas mal non plus.
Ça marche quand même mieux.
Parce que la scrofule, c'était pas.
Tout ça n'est pas très ragoûtant quand
même. Bah oui, mais enfin, ça fonctionnait. Moi, certainement, des gens se sont crus guéris par.
Mais bien sûr,
mais
je crois
roi,
que. Mais on le croit d'ailleurs, beaucoup de gens vont dans certains lieux pour faire des pèlerinages et en reviennent guéris.
Bien sûr,
merci beaucoup, Clémentine.